on s'en va toujours parcourir le vaste monde, tout en restant dans le Finistère, par la magie de la radio, la magie de la chronique d'ici et d'ailleurs de Sophie Amonet. Sophie part à la rencontre de celles et ceux qui ont quitté leur pays d'origine pour poser leurs valises dans notre région. On y découvre leur parcours de vie, les raisons qui les ont menés jusqu'en France et ce qui a changé dans leur vie depuis qu'ils sont chez nous et chez eux. Aujourd'hui, Sophie rencontre Céline, qui est d'origine franco-chilienne et qui a grandi à Mexico. À 15 ans, elle décide de poursuivre sa scolarité dans un lycée bilingue en France, en région parisienne. Elle est alors loin de se douter combien sa vie va changer. Entre désillusions et prises de conscience, elle nous raconte sa vie d'alors et sa vie d'aujourd'hui, celle d'une artiste militante installée à Saint-Renan.
Bonjour Céline.
Bonjour Sophie.
Comment vas-tu ?
Bien.
D'où viens-tu ?
De Saint-Renan.
D'accord. Et est-ce que tu es née à Saint-Renan ?
Pas du tout.
Où es-tu née ?
Je suis née à Mexico.
Mexico. La Ciudad de México.
De México, Distrito Federal.
Muy bien. Comment tu dis bonjour en mexicain ou en espagnol ?
Hola. Buenos días. ¿Qué tal?
Buenos días. Qu'est-ce qui t'a amené du côté de Saint-Renan depuis le Mexique ?
Je ne suis pas arrivée directement à Saint-Renan depuis le Mexique. J'ai fait une escale par la région parisienne.
Déjà, à quel âge es-tu arrivée en France ?
À 15 ans.
D'accord.
Au lycée, quoi.
Est-ce que tu peux nous expliquer
pourquoi
ce changement de...
Cette destination ? Parce que je suis née au Mexique, mais ma mère était française. Mon père, lui, est chilien. Et j'étais dans un établissement français, franco-mexicain, au Mexique, à Guadalajara, dans l'état du Jalisco. Et quand est arrivé le moment du lycée, ma maman voulait à tout prix que j'aie un bac français, etc. Et donc, il n'y avait pas beaucoup de choix. C'était soit aller au lycée français de Mexico, soit le CNED. Le lycée français de Mexico n'était pas dans nos moyens financiers. Donc, j'ai fait une première seconde par le CNED. Et à l'issue de cette seconde, que je n'ai pas trop aimée, j'ai dit à mes parents, si tu veux, maman, que je continue une scolarité française, il faut que j'aille en France, mais en tout cas, je ne continue pas comme ça. Et donc j'ai dit, on trouve un truc, n'importe quoi, et je vais en France. Et donc je suis arrivée en France, dans un lycée public parisien avec internat pour les élèves du secondaire.
Et à ce moment-là, tu es arrivée toute seule en France ?
Absolument.
Ah oui,
j'étais,
ok.
Du coup, dans un internat la semaine, et le week-end, je dormais chez mes grands-parents qui étaient en région parisienne.
Donc, tu es arrivée en France toute seule pour poursuivre ta scolarité. Et tu avais quel âge ?
15 ans.
Waouh, c'est super jeune.
Ouais.
Est-ce que tu étais déjà allée en France avant ?
Ouais, on venait en France à peu près tous les 2 ans l'été pour voir mes grands-parents.
Ok, donc tes grands-parents, tu les voyais pas si souvent que ça. Et là, tu les as vus beaucoup ?
Ouais.
Et est-ce que tu as eu le mal du pays au début ?
Oui, j'ai eu surtout le mal de ma famille aussi, parce que j'étais jeune et c'était pas facile. C'était quelque chose, c'est une décision que j'ai prise sans forcément toujours mesurer tout ce que ça allait impliquer comme difficulté. Quand je suis arrivée en France, je suis arrivée donc en première S. J'ai fait une première seconde par le CNED. Je dis première parce que tu verras, j'en ai fait une autre après. Et je connaissais pas le système français. Donc les choix que j'ai faits, c'était en fonction des enseignants français que j'avais au Mexique, qui étaient très... Aujourd'hui, ça a un petit peu diminué, mais tu sais qu'il y avait cette idée qu'il fallait prendre S parce que ça ne te ferme aucune porte.
Mm-hmm.
Et que comme j'étais une plus ou moins bonne élève, a priori, je pouvais tout faire. Et que donc, quand tu peux tout faire, c'est gâché que de ne pas faire S. C'est un peu bizarre. Et donc, du coup, j'avais choisi d'aller en première S. Sauf que moi, ce que je ne savais pas, c'est que c'était un lycée avec 99% de réussite au bac, où en fait, les élèves font quasiment tous des classes prépa. Où mes camarades de classe ont arrêté de me parler parce qu'ils me demandaient souvent combien j'avais eu au DM de maths. Et en fait, ils ne me parlaient plus quand j'ai commencé à avoir que des mauvaises.
Ah oui, ok.
Voilà.
Donc, tu étais discriminée parce que...
C'était pas évident avec ça. Et puis après, tout le racisme aussi, d'être tout le temps moquée parce que quand on me demandait d'où je venais, comme ils étaient incapables de prononcer le nom de ma ville, c'était toujours un sujet... Le fait de... Moi, j'étais perdue parce que du coup, j'avais pas du tout les références de leur vie.
Oui.
J'étais pas adaptée. Enfin, j'étais un peu souvent à côté de... Moi, j'avais pas du tout la connaissance de la France en plus qu'ils connaissaient. Enfin, ma mère, du coup, m'avait transmis sa culture à elle. Donc, moi, j'étais au taquet sur Barbara Brassens, Brel et Loferès, tu vois. Ouais. Donc, en 95, ça le faisait pas trop.
Ouais.
Quand je suis arrivée, je savais pas qui était Claude François, parce que c'était pas de la musique qu'écoutait ma mère.
Oui, c'est ça.
De sa génération. Je connaissais pas Starmania.
Est-ce qu'au niveau de la langue française, c'était quand même... T'avais un niveau bilingue.
Ouais.
Ouais, donc t'avais bilingue. Pas cette difficulté-là.
J'avais pas cette difficulté dans une pratique. C'était plus...
Culturellement, en fait, genre...
J'étais décalée par rapport au... Bah, déjà, à l'argot des jeunes.
Ouais.
Tu vois, quand je suis arrivée, du coup, les copines de l'internat, c'était un truc qui m'avait beaucoup frappée, mais elles me demandaient tout le temps de quelle origine j'étais.
Ok.
Et donc, du coup, il y avait beaucoup de discussions autour de... c'est un rebeu, c'est un feuche, c'est un babtou, c'est moi, c'est quoi tous ces mots-là?
Je ouais, c'est pas. Ça.
Donc j'ai eu à rattraper tout ce retard de tout ce vocabulaire-là que je n'avais pas.
Okay.
En fait, parce que j'avais pas. Bah voilà. En fait, ce qui était un petit. En fait, je comprenais pas. Parce que au Mexique, j'étais pas considérée comme une Mexicaine. Mes copains mexicains, pour eux, j'étais la Française. Et en fait, j'arrive en France et je suis la Mexicaine.
Ouais.
Et du coup, j'ai fait, vas-y, quoi, c'est quand que je suis.
Dans le pays où je suis.
Voilà, d'où je viens, où je vais, tu vois, c'était ouais. vraiment. Du coup, c'était très inconfortable. Voilà, c'était. Il y avait toujours ce côté, ouais, ça se voit que t'es pas française.
Est-ce que, justement, pendant cette période-là, t'as plus d'une fois eu envie de retourner au Mexique?
Pas du tout, parce que justement, la situation aussi que je vivais au Mexique n'était pas confortable. La ville où j'habitais est une ville assez conservatrice. Et c'était dur aussi, j'étouffais un peu de ce côté-là. Donc, j'avais pas envie, j'avais envie vraiment d'aller ailleurs, d'aller voir autre chose, de ce qui était censé faire partie de moi aussi, tu vois.
Mm-hmm.
Parce que la France était censée être mon pays, donc j'avais pas forcément envie de retourner au Mexique, de... Alors, ce qui était drôle, c'est que moi, je trouvais ça difficile, la violence, la misère, l'homophobie, un certain nombre de choses. Et je venais en France en pensant que ça serait un peu moins le cas. Et en fait, je me suis rendu compte que ma mère avait parfois beaucoup romantisé sa vision de la France.
Okay.
Et que le contrat social était bien loin. Et que certes, sur certaines choses, on était quand même plus ouverts, mais qu'il y en avait d'autres où, en fait, bon, on n'était pas mieux.
Ouais, c'était du pareil au même.
Voilà. Donc, du coup, après un premier trimestre catastrophique en première S, j'ai été voir la CPU, je lui ai dit en fait, je pense que ça serait bien que je retourne en seconde et que je recommence tout correctement. Ça va pas, enfin. Et du coup, je suis retournée en seconde et ce qui m'a vraiment permis après, du coup, de mener une scolarité un peu plus sereine.
Donc, tu es arrivée vers 16 ans, tu es restée définitivement en France maintenant.
Ça fait beaucoup, ça fait 30 ans.
Ça fait 30 ans. En fait, t'as plus vécu ici que là-bas.
Maintenant, ça y est, c'est souvent ce que je dis.
Est-ce que après, donc, t'es arrivée à Paris, t'as fait tes études dans la région parisienne et ensuite...
Eh ben ensuite, j'ai fait mes études à Paris et j'ai rencontré celui qui est devenu mon compagnon.
Félicitations.
Ouais, merci. C'était il y a 20 ans. Hein. Et dès qu'on a pu, on a quitté Paris.
Okay.
En fait, moi, je ne voulais pas vivre à Paris, ma vie. Et j'aimais beaucoup Lille et j'aimais beaucoup la Bretagne. Donc j'avais dit, si je dois vivre quelque part en France, j'aimerais bien que ça soit là. Et comme lui, il est originaire de Rennes, bah, il disait que ouais, la Bretagne, il était chaud.
Ok.
Et on a eu une occasion de partir, de venir à Brest et c'est comme ça qu'on est arrivé.
Mais toi, finalement, tu connaissais pas Brest ?
Eh ben si, j'étais venue une fois quand j'avais une vingtaine d'années, 20 ans à peu près. L'été, je travaillais et je voulais à tout prix voir la mer. Et comme j'avais pas beaucoup d'argent, j'ai commencé à regarder, à chercher comment faire pour me payer un week-end à la mer pas
c'est,
trop cher.
Ouais, c'est ça, c'est où, c'est pas cher.
Et toujours, j'ai atterri à Brest en fait.
La destination low cost.
Mais ouais, et c'était au moment des journées du patrimoine.
Ok.
Je m'en souviens bien parce que du coup j'ai visité le château et il y avait des musiciens. Donc je suis venue à Brest à un moment où jamais je n'aurais pu imaginer qu'un jour... Je vivrais
là.
Dans la région. Je me suis baladée. J'avais une chambre d'hôtel dans une rue qui descend là, comme ça là,
oui.
En dessous de la gare. Et une fois, je suis repassée devant l'hôtel. Des fois, je passe devant. Je dis aux enfants, regardez, c'est là que maman elle a été la première fois à Brest dans cet hôtel.
Quand elle avait 20 ans.
C'est ça. et c'est rigolo parce que j'avais pris le bus pour aller à la plage du Moulin Blanc et puis j'avais pris le car aussi pour aller à Plougastel.
Et tu te souviens qu'à l'époque, t'avais bien aimé. À 20 ans.
Ouais.
Okay.
Parce que, en fait, moi, j'aime beaucoup déjà l'automne. C'est une de mes saisons. C'est ma saison préférée que j'ai aussi découvert. En fait, ce que j'ai découvert en France, c'est les saisons. Puisque au Mexique, là où moi j'ai grandi, il n'y a pas vraiment de saison. Enfin, la saison des pluies et la saison sèche. Et puis, bon, l'hiver, il fait un peu froid quand même le matin parce que c'est un peu en altitude. Mais il y a pas les arbres, ils ont tout le temps des feuilles, il y a un peu tout le temps des fleurs, il y a un peu tout le temps des fruits. Enfin, je sais pas, c'est pas pareil.
Ouais.
Et du coup, ça, je trouvais ça vraiment formidable l'automne. Je suis quelqu'un d'assez nostalgique, mélancolique, et donc j'adore la pluie, j'adore le temps un peu gris. J'adore savoir qu'il va y avoir des moments où le temps dehors, la météo, elle sera en accord avec ce que je ressens à l'intérieur de moi. S'il fait tout le temps beau, bah c'est pas possible, quoi.
Oui.
Tu vois, ça crée une dissonance, je trouve.
Ouais.
Et moi, j'aime énormément ça. Et vraiment, j'aimais beaucoup. Et c'est un truc étrange, mais en Bretagne, la mer, elle me rappelle un peu quand même le Pacifique que moi j'ai connu.
Ok.
Il y a des trucs, même si ça n'a rien à voir, parce qu'il n'y a pas de marée et que, mais je sais pas, il y a un truc qui fait que ça me rappelle ça un peu. Et puis des fois ici, le temps il change tellement vite que des fois il pleut et puis après il refait beau et du coup l'eau s'évapore un peu et il y a une petite odeur de la pluie ici l'été quand il se met à pleuvoir qui me rappelle le Mexique l'été quand il pleuvait et que ça sentait cette terre mouillée, tu vois.
Ah, c'est vrai.
Et donc moi j'ai vraiment des sensations surtout olfactives en Bretagne qui me rappellent le Mexique. C'est très bizarre.
Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui alors ?
Alors essentiellement je peins, je représente des corps gros de femmes, donc je peins beaucoup. Parce que bon, je suis à la radio, ça ne s'entend pas, mais je suis une femme grosse, très grosse. Et donc la question de la grossophobie me traverse beaucoup. Je suis militante anti-grossophobie. Et donc la question de la représentation me paraît essentielle. Quand j'ai eu 40 ans et que j'ai fait une très très grosse dépression, je me suis dit, bon là, il faut que t'arrêtes en fait. Il faut que t'arrêtes d'être aussi vache avec toi. Il faut que t'acceptes de te regarder. Il faut que, voilà, que t'acceptes juste ce que tu es, comme tu es. Et puis essaye de te donner un peu de douceur. Et comme je dessinais quand j'étais ado, en fait, je suis retombée sur des dessins. Et, en fait, et puis je me souviens bien de ce que je dessinais. Je dessinais des corps minces, très élancés et tout. Et ils me ressemblaient déjà pas beaucoup, même si j'étais pas aussi grosse à l'époque. Je me suis dit, en fait, t'étais déjà en train de te planter là, puisque t'étais déjà en train de pas te représenter. Donc je me suis dit, bah, tu vas reprendre tout depuis le début, hein, comme quand t'étais au collège. Et tu vas reprendre ces dessins, tu vas les refaire, mais cette fois-ci ressemblant. Et donc j'ai commencé à essayer de dessiner des corps gros et c'est là que je me suis rendu compte que je ne me connaissais pas, que je ne me regardais pas, qu'il n'y avait pas de photos de moi, etc. Donc ça m'a demandé un travail de m'intéresser à ce corps gros, le mien, et puis celui des autres, et d'essayer de le dessiner. Donc au début j'ai dessiné des corps un peu gros, puis ils n'étaient pas assez gros, et puis je les trouvais un peu trop, comme pas belle, mais tu vois, correspondante à une grosseur acceptable, tu vois. Donc j'ai commencé à chercher encore plus. Et c'est comme ça que je me suis dit, ah, mais ça me plaît. Puis j'avais des copines qui aimaient ce que je faisais, qui me disaient que ça leur faisait du bien. Donc j'ai commencé à leur donner les dessins. Et donc je me suis rendu compte que ouais, ça m'apportait quelque chose et que je trouvais ça intéressant. Et que c'était cool, en fait, que ça me plaise, que ça me fasse du bien, que ça puisse plaire aux autres et que ça crée quelque chose.
Ouais.
Et donc c'est comme ça que je me suis dit, bah voilà, en fait, c'est toujours ça qu'on t'a dit de faire. C'est toujours un peu ça que tu as eu envie de faire.
J'ai l'habitude de demander, c'est quoi ta chanson préférée ?
Alors le problème, du coup, comme j'ai quitté le Mexique dans les années 90, c'est que c'est parfois, ça peut être du coup hyper vintage, voire ringard.
On adore.
Quand je suis nostalgique, peut-être, ce que j'écoute.
Ouais.
J'aime bien une chanteuse qui s'appelle Eugenia León.
Et quelle chanson en particulier ?
Bah, en fait, elle chante pas mal de chansons romantiques, des boleros. Donc tout ça, voilà, moi j'aime bien. Du coup, je suis née, j'ai grandi dans le Jalisco, qui est le pays des mariachis. Donc tu vois, les chansons tristes qui parlent, les trucs un peu... Donc moi j'aime beaucoup, voilà, soit les chansons d'amour, soit les chansons de mariachis. Donc tu vois, tout ce que chante Chabela Vargas, ou tu vois, des choses comme ça.
Merci beaucoup, Céline.
Merci à toi, Sophie.
D'avoir répondu à mes questions et hasta luego.
Hasta pronto. Ah, que navo.
Que navo.
Es que sentí rencor, que el rencor no me oscurezca, el recuerdo de tu amor. Soportable es el dolor, poco a poco, trago a trago, pero no ver en el fango la nobleza de una flor que me lleve la tristeza, pero que la rabia.
daría mucha vergüenza ver que el odio me ganó, que el amor se nos ahogó en el pozo del coraje y que es causa de mis males el veneno del rencor.
Vous retrouvez toutes les chroniques d'ici et d'ailleurs sur le site internet de Transistor et dans l'EM mercredi, il en reste une. Ce sera le 24 juin en compagnie de Vita qui est venue des Pays-Bas.